Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous, on continue à parler cuisine avec Jean-François Piège pour tout vous dire, mais il faut être un peu sérieux, voilà, on va parler politique avec Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste, bonjour Virginie.
Bonjour Valérie,
Samuel Lafond, porte-parole de Reconquête,
bonjour. Bonjour Valérie.
Nicolas Jeannetet, directeur des Centristes, bonjour à vous, conseiller de Paris. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des Droits de l'Homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, bonjour à vous Jean-Luc. Tout va bien à Marseille ?
Ça roule.
Ça roule, bon, les poubelles sont ramassées, il fait beau.
Non, ça va, c'est bon, c'est pas tous les jours.
Oh, c'était à Paris, hein,
c'était
il y a pas
Paris,
longtemps. Hein.
C'était oui, à Paris, vrai. Effectivement. Eh bien, faut-il, on va parler de ce gouvernement d'union nationale. C'est Fabien Roussel qui l'a évoqué hier après son rendez-vous avec le président de la République. On va parler de la Coupe du Monde au Qatar. Et puis, le Conseil d'État qui confirme l'interdiction du burkini. Tous ces sujets avec vous. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, bah, Nicolas Jeannetet, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure dans le zapping.
Ah, j'ai pas entendu.
Oui, allez-y.
Oui, bah écoutez, mon coup de cœur, c'est... alors, il est pas directement contre Jean-Michel Blanquer, mais il est contre cette façon de faire de la vieille politique et du reclassement d'hommes politiques battus.
Mais c'est un coup de cœur ou un coup de gueule?
Un coup de gueule, pardon, un coup de gueule, bien sûr. C'est toujours des coups de gueule ici, d'ailleurs, sur Sud Radio. C'est rare que je fasse des coups de cœur. Oui, non, cinq jours après le premier tour législatif, on apprend que l'université Paris-Panthéon-Assas va créer un poste sur mesure dans son département de droit public pour accueillir Jean-Michel Blanquer. Alors, j'ai rien contre Michel Blanquer. Ça a été, bon, pour certains, un éminent ministre, pour d'autres, un moins bon ministre. C'est en tout cas un spécialiste de droit constitutionnel et de droit comparé. Mais le voilà arrivé comme ça, sur une place toute faite, toute chaude, créée pour l'occasion à l'université. Alors ça interroge sur plusieurs choses. D'abord, ça interroge sur le calendrier.
Ouais.
Cinq jours après, il pouvait attendre. Je rappelle quand même que je n'imagine pas que Jean-Michel Blanquer est dans un besoin financier important. Je rappelle qu'un ministre touche, je crois, pendant 3-4 mois encore son indemnité, son salaire de ministre, qui est quand même autour de 10 000 euros. Bon, ça c'est le premier point. Et puis deuxième point, qui est presque plus grave, à un moment où l'université est quand même très mal en point, à un moment où les conditions d'enseignement sont dégradées. Je rappelle qu'en janvier dernier, les syndicats de l'enseignement supérieur sont mis en grève pour dénoncer le sous-financement de l'université. Et ben voilà, on crée un poste sur mesure pour le ministre Blanquer. Et on sait d'ailleurs que les postes sont très précaires. Les vacataires, pour devenir de vacataire à titulaire, c'est très très compliqué aujourd'hui à l'université. Beaucoup sont en attente. Et voilà, ont un poste en clé en or pour l'ancien ministre de l'Éducation. Voilà, je trouve ça un peu fort de café, on aurait pu attendre un tout petit peu.
Mais cet entre-soi qui se perpétue, qui
l'entre-soi de la Macronie.
Non, pardon, qui existait déjà avec la gauche et la droite, je ne veux pas vous faire de la peine, mais ça fait quand même des années que ça dure. Oui. Bah, le résultat des courses, c'est 89 députés RN et 75 députés de la France Insoumise.
Je suis d'accord.
C'est comme un bras d'honneur.
Et une abstention record,
voilà. Le premier parti de France, c'est l'abstention. Vous avez tout à fait raison.
Et une abstention record qui ne va pas effectivement dans le sens de la politique. Jean-Luc Benamias, vous en pensez quoi ?
Bah, je pense qu'il aurait dû passer par Parcoursup.
C'est pas mal, effectivement. Bah, écoutez ce que disait Manuel Bompard de la France Insoumise à propos de cette information.
Mais il aura fallu attendre très longtemps pour que le gouvernement décide enfin de créer des postes à l'université. On en avait bien besoin. Ça fait longtemps qu'on le réclame. Et quant à M. Blanquer, il démontre que M. Macron avait raison quand il disait qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver un emploi.
Voilà. Pour vous, Samuel ?
Simplement, en fait, les Français voient ce qui se passe. Et je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui l'oublient. Et c'est pas parce qu'ils en parlent pendant tous les jours. C'est pas au centre de leur sujet de discussion, mais le fait est qu'ils le voient et on voit le résultat législatif, une forte abstention parce qu'ils ne croient plus vraiment, en tout cas dans les politiques présents actuellement ou qui se présentent aux élections, on pourrait croire au système en général et surtout ils ne font pas confiance. Et là on le voit, ça va rejoindre mon coup de cœur, les élections législatives.
Ouais.
Le résultat des élections législatives au second tour.
Ouais.
Emmanuel Macron, qui était très fiéro, est tombé de sa chaise. Clairement. Il était certain qu'il aurait sa majorité, que c'était normal, c'est Jupiter, il aura naturellement un grand nombre de députés pour le soutenir. Et en fait, les Français lui ont dit non. lui ont dit non, et ça va être très intéressant dans les semaines à venir d'analyser les reports de voix qu'il y a eu. Parce que ça commence à sortir, mais le report de voix selon les différents partis au second tour, en fait, il y a quand même une grande mobilisation contre les députés, les candidats plutôt d'Emmanuel Macron, ce qui donne cette assemblée assez particulière, avec des résultats proches de la proportionnelle. Pas égal à la proportionnelle, mais proche de la proportionnelle, tout en étant dans notre système très particulier de système uninominal majoritaire de tour.
Oui, je crois que les reports de voix sont à peu près équivalents, que ce soit ceux qui viennent du Rassemblement National, de la France Insoumise, de la droite ou du parti d'Emmanuel Macron, pardon. Et autre chose que je voulais dire, oui, Emmanuel Macron est tombé de sa chaise, et il est tellement tombé de sa chaise qu'il était tellement sûr d'avoir sa majorité absolue qu'il n'a pas fait campagne. Mais il n'y a pas que lui qui a été défait. Non. C'est comme si les électeurs avaient montré du doigt tous ses proches. Je rappelle qu'il y a 3 ministres battus, mais qu'il y a 2 de ses proches qui sont M. Castaner et M. Ferrand, que du coup, aujourd'hui, se trouve privé d'une architecture politique qui lui fait cruellement défaut dans une période aussi critique.
Il est tombé de sa chaise, mais il l'a cherché aussi. Faut pas quand même oublier. Au premier tour de l'élection présidentielle, il nous a imposé un duel avec Marine Le Pen. Là, aux législatives, il nous impose un duel avec la France Insoumise. Il ne fait pas campagne. Sa chef, qui est Elisabeth Borne, n'a pas fait campagne parce qu'elle était très préoccupée localement et donc nationalement, elle n'a pas fait campagne. Enfin, la faute à qui ? La faute à Emmanuel Macron.
Et l'ambiguïté des mots d'ordre entre le premier et le deuxième tour, moi je trouve que ça a achevé de déconsidérer la Macronie, et les électeurs l'ont tellement bien compris qu'il n'y a pas eu de...
Ce fameux message au tarmac avant de partir, c'était un peu fort de café aussi.
Il
n'y
a pas eu de comment est-ce qu'on dit ?
Cohésion.
De barrage. Non, de barrage.
De Front Républicain.
Tout a volé en éclat. Et les électeurs ont imposé quasiment la proportionnelle à l'Assemblée nationale, alors que le scrutin est en général très difficile pour le Rassemblement national. C'est quand même un coup de force.
On va y revenir dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio, avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, et Nicolas Jeannetet, directeur des centristes et conseiller de Paris. On va parler de ce gouvernement d'union nationale souhaité, semble-t-il, par Emmanuel Macron. On va parler de la Coupe du Monde au Qatar et du Conseil d'État qui interdit le burkini. Un mot sur Reconquête, Samuel Lafont, ça existe toujours, Reconquête ?
Ça existe toujours, on a été capable de présenter... Évidemment, ça existe toujours.
Il n'y a pas d'élus.
On n'a pas encore eu d'élus. On a été capable de présenter 550 candidats. Donc on est fort de... Nos compétences en interne, on est fort surtout de notre maillage territorial, on a des gens partout, on a des gens partout sur le territoire national, et on est solide financièrement également, puisqu'on n'a pas, on ne s'est pas endetté, on n'a pas dépensé.
Il y a une petite polémique, non, ce matin, dans l'Express, sur justement cet argent qui va aller à Reconquête, et certains critiquent en fait la manière dont l'argent est réparti, c'est
non,
ça ?
Non, simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un comité politique hier, dans lequel il y a eu des discussions, les discussions peuvent être animés parfois. Tout le monde savait que... Tout le monde sait désormais, ça a été d'ailleurs beaucoup repris par les médias cette année, que lors des élections législatives, chaque voix donnée pour les partis principaux permet à ces partis d'avoir des subventions publiques les années suivantes.
1,5 euros à peu près par voix et 37 000 euros par député.
Absolument. En sachant que nous, on a vécu beaucoup de dons. Ce qui est important, Reconquête, en fait, c'est un grand mouvement populaire qui s'est créé grâce aux dons des Français. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les donateurs de Reconquête.
Mais là, Éric Zemmour va continuer ou il va réécrire des livres et continuer, reprendre une tournée d'écrivains ?
Ah, il va vous le dire très prochainement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Reconquête, c'est un nouveau parti politique qui a vocation à durer, et donc on s'inscrit dans la durée, véritablement.
Et les européennes dans 2 ans, c'est peut-être un...
Ah ben bah ça, c'est ce que vise Éric Zemmour.
Ah mais les européennes, c'est même court, on peut penser dans deux ans,
c'est
2027.
Il a raison d'ailleurs d'y aller, parce que c'est la seule façon d'être élu pour lui.
Il y a de nombreux scrutins à venir.
Jean-Luc Benamias, un coup de gueule.
Un coup de gueule, oui. Un incendie dans le camp militaire de Canjuers, samedi, en pleine... toute la France et même dans le Var.
En pleine canicule, ça a coupé.
On n'entend pas bien.
Ça a coupé, donc on n'avait pas entendu votre mot. Donc vous dites en pleine canicule, c'est ça, samedi ?
Oui, en pleine canicule dans le Haut-Var. Ça fait deux fois que ça arrive. C'est déjà arrivé en 2009 sur Marseille, au camp militaire de Carpiane. Je pense qu'il faudrait mieux éviter. Je pense que les militaires doivent s'entraîner, c'est évident. Mais de s'entraîner en tirant pendant les périodes caniculaires et pendant les périodes de feu. C'est mieux. Vous m'entendez pas, c'est ça ?
Si, on vous entend.
Si.
Oui, on vous entend. Et donc, il y a un immense incendie qui s'est déclaré. Non, on a un problème avec Jean-Luc. On va essayer de vous...
Les phrases étaient coupées, on entendait. Moi, je n'avais pas compris ce qu'il voulait nous dire.
De vous récupérer.
Simplement dire que l'écrasante majorité des feux de forêt sont, en général...
Criminels.
Des causes humaines. Ouais. Non, le criminel, ouais. la mauvaise, la désinvolture, la légèreté, les mégots, le manque de soins des gens.
Ouais. Oui. Moi, je vais.
Puis c'est important,
Samuel Lafont.
Juste que nos militaires puissent entrer dans différentes conditions, et quand ils vont dans des pays chauds, c'est normal aussi qu'ils s'entraînent toute l'année. Et je vous prends un exemple, mais quand vous faites des préparations militaires, en principe, des préparations militaires pour les gens qui veulent venir, qui veulent notamment passer le concours de Saint-Cyr ou de Sous-Off, eh bien, ils s'entraînent, ils y vont l'été, en juillet et en août.
Mais ils n'ont peut-être pas respecté certaines règles de sécurité, malgré tout.
Je ne sais pas,
ce qui s'est passé.
Je ne sais pas non plus. Il y a eu alors, je ne sais pas, quand on récupérera Jean-Luc, qui pourra nous en dire plus. Moi, je voulais pousser un coup de gueule sur les chiffres de la sécurité routière. 5039 morts en 2021, c'est 375 de plus qu'en 2019. 5000 morts sur les routes, on était arrivé à 3000 au moment où
et
Jacques
Chirac...
Et
toujours les mêmes qui nous expliquent que c'est pas la vitesse qui
compte. Absolument, et que Jacques Chirac en avait fait sa priorité. Je vous rappelle qu'il y avait eu... Et puis qu'il y avait eu des délégués interministériels à la sécurité routière qui ont fait bouger des choses, comme Rémi Hetz. Là, ce matin, je suis moi aussi tombée de l'armoire en lisant une interview du délégué adjoint, c'est-à-dire qu'il y a une déléguée générale interministérielle, donc elle devait avoir piscine aujourd'hui où elle a le Covid. Enfin, la situation est grave et c'est l'adjoint qui vient parler aux Parisiens. Je pense que je ne savais même pas son nom, alors j'ai retrouvé Marie Gauthier-Mulleret. Je n'en ai pas entendu parler depuis 2020, de date à laquelle elle a été nommée. Donc certes, il y avait peut-être moins avec le Covid de communication à faire, mais je trouve qu'en matière de sécurité routière, on est quand même très très mauvais. Les cyclistes, vous en savez quelque chose à Paris.
Il y a une hausse énorme des interactions entre cyclistes et piétons, surtout. Énormément, il y a une hausse dramatique des accidents. Alors aussi parce qu'il y a beaucoup plus de cyclistes à Paris, mais qu'il n'y a pas de formation d'ailleurs pour les cyclistes. Et d'ailleurs, à la mairie de Paris, on va former dans les écoles élémentaires les jeunes à faire du vélo.
Former les jeunes à faire du vélo, ce serait déjà leur expliquer que les feux rouges c'est pour tout le monde, que les sens interdits c'est pas pour eux, et que voilà, ça serait déjà le béaba. Et s'il y avait quelques agents de police dans les rues, ça clarifierait un peu le problème.
Ne demandez pas ça, mais dans le 15e, on a 15 policiers municipaux
pour... Quand on les voit débouler dans les carrefours à toute vitesse, et que les voitures se disent... Et que les voitures se disent, si je renverse un vélo, c'est une horreur pour moi.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Luc ? Vous n'êtes pas d'accord avec mon coup de gueule ?
C'est-à-dire que s'attaquer directement à ce qui se aux piétons et aux cyclistes me paraît un peu étonnant.
Au code de la route.
Oui, mais au code de la route, j'entends bien. Mais le code de la route, c'est déjà à ceux qui ont des véhicules à moteur de faire extrêmement attention à ceux qui sont à pied, à vélo et ainsi de suite. Parce que le plus de morts, l'augmentation du nombre de morts, c'est pas l'augmentation du nombre de morts cyclistes.
C'est la vitesse.
C'est l'augmentation du nombre de morts masculins. Masculin, en très grande majorité, à 90% masculin, sur les routes pour des excès de vitesse.
Exactement.
Mais les cyclistes, tout de même, c'est l'ONISR qui souligne dans son baromètre mensuel la forte augmentation des décès des cyclistes
dans le milieu
et motocyclistes sur les routes de France. 22 décès pour les cyclistes, une des plus élevées de ces 10 dernières années. Donc, madame la déléguée générale à la sécurité routière, je sais que c'est un poste assez difficile et qu'il faut de la volonté politique derrière, mais il faudrait que le gouvernement en fasse à nouveau une grande cause nationale. Oui,
Valérie,
Jean-Luc.
C'est dû aussi à l'augmentation, et c'est heureux, depuis quelques années, du nombre de cyclistes sur les routes.
Bien sûr, il y a plus de cyclistes, mais là, si on revient à la sécurité routière et des voitures, il y a une augmentation non négligeable qui est là.
Et n'oublions pas les accidents dus à l'alcoolémie, à l'usage des drogues et des stupéfiants, qui est en hausse constante auprès des jeunes, et les accidents sont vus à la sortie des boîtes de nuit, etc.
Alors, et je rappelle le projet funeste qui était de ne pas sanctionner par un retour limiterait de points ceux qui dépasseraient la, la vitesse autorisée de moins de
5 km/h.
Si c'est pas ça, un encouragement à dépasser les vitesses, je ne sais pas ce que c'est.
Un petit mot sur votre coup de gueule, Jean-Luc. Effectivement, Xavier, un auditeur, me dit les militaires ont tiré 600 obus à Canjuas en pleine canicule, mettant le feu à la végétation très sèche et obligeant à faire venir des centaines de pompiers et de canadaires. Alors effectivement, Samuel Lafont disait qu'il faut s'entraîner par tous les temps. Mais,
le pire est arrivé hier. Hier, vu que c'est sur un terrain militaire, il reste des obus qui n'ont pas explosé. Eh bien hier, il y a eu, alors heureusement ce sont des blessés légers, il y a eu 5 blessés hier, hier lundi. 5 blessés, pompiers.
Et alors, et vous voulez quoi alors? Vous voulez dire...
Je veux dire simplement une chose, on ne fait pas de tir d'entraînement en période de canicule. Voilà, c'est clair.
Surtout que ça a duré 3-4 jours, on pouvait interrompre pendant les 3-4 jours...
Oui, absolument.
Les opérations.
Alors, bon, on a fait le... Non, Virginie, coup de gueule?
Ah!
Ou coup de cœur.
Ma petite bête noire. Non, non, coup de gueule. Ma petite bête noire, toujours. Monsieur Mélenchon qui multiplie les confusions. Alors, je passe sous silence le fait qu'hier, il est posé avec, en photo avec les députés LFI, alors que lui-même est sortant et qu'il ne sera pas dans ce nouveau groupe. Donc, il montre le nouveau groupe dont il peut être à juste titre fier, mais lui-même ne fait pas partie de ce groupe. Donc là, je trouve que c'est déjà une confusion pour le grand public. Je passe aussi sous silence le fait qu'il ait dit toutes les composantes de la NUPES doivent siéger dans le même groupe, alors qu'il était écrit noir sur blanc dans l'accord que les partis ont signé que chacun reprendrait ses billes. D'ailleurs, il s'est fait tout de suite recadrer par les communistes, les socialistes. Tout le monde lui a dit c'est niet, c'est stop, donc chacun va reprendre ses billes. Et puis, je passe sous silence aussi son appel à la motion de censure qui là aussi a été déclinée par tout le monde, chacun ayant à cœur de ne pas tout de suite compliquer les choses et de provoquer une crise de régime. Donc moi, je trouve que Mélenchon, comme à son habitude, il parle beaucoup, il croit en une réalité totalement alternative. Quand il a dit « Élisez-moi Premier ministre », on n'élit pas un Premier ministre, on le nomme. Et il est arrivé même pas à la moitié du nombre d'élus qu'il fallait, de députés qu'il fallait pour avoir la majorité absolue. Donc voilà, il y a un moment, il ferait mieux de parler un peu moins et d'être plus en raccord avec la réalité. Certes, il a réussi un beau coup, mais il n'a pas réussi le coup qu'il prétend avoir réussi.
Il a fait quand même, au lendemain de l'élection présidentielle, une opération marketing formidable.
Oui, mais c'est un très grand stratège politique.
Mais c'était vraiment une opération marketing. Prénommé Premier ministre, ça a entraîné une cohésion au sein de la gauche. Et
la gauche n'a pas fait plus de voix ensemble que séparée en 2017. Elle en a même fait moins. Donc il n'y a pas d'effet Mélenchon. Peut-être que les députés
Le Parti socialiste n'aurait jamais fait 35 députés sans cette grande union.
Regardez la droite qui a fait un score pitoyable à la présidentielle, elle a réussi à sauver pas mal de sièges. Donc qu'est-ce qu'on en sait en fait? Il y a moins d'électeurs qui ont voté pour la NUPES que pour les différents candidats de gauche il y a 5 ans.
Celui qui a fait la meilleure campagne des législatives, ça a été Jean-Luc Mélenchon, qu'on l'apprécie ou pas. Parce qu'en fait, il a créé le réel en disant « Élisez-moi Premier ministre, il y a un troisième tour ». Et en fait, il a mis une image dans la tête ses soutiens. Et il a fait croire qu'une victoire était possible. Le fait est qu'il n'a pas eu autant de députés que ce qu'il veut.
Il n'a pas eu la moitié.
Mais clairement, je sais bien. Et tant mieux.
Je ne me prononce pas là-dessus.
Mais le fait est qu'effectivement, il a ressuscité d'une certaine manière à l'Assemblée nationale le PS. Il a aidé les communistes à rester en vie. Il a aussi aidé d'une certaine manière les écolos. En fait, ils s'y retrouvent tous. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, il n'y a pas un groupe NUP à l'Assemblée. Enfin, a priori, il n'y aura pas deux groupes centrales. Et le premier groupe d'opposition, ça va être le Rassemblement National.
S'il n'y avait pas eu NUPES, on n'aurait pas eu les scores qu'on a eu aujourd'hui. Moi, je vois dans ma circonscription, la candidate verte a fait 30%.
Ah, c'est sûr.
Alors que le candidat Jadot avait fait 7% à la présidentielle.
Valérie Pécresse a fait moins de 5%. Ils ont quand même réussi à sauver les deux tiers.
Moi, j'ai fait 14%. Oui, d'accord, bien sûr.
Donc on aurait pu imaginer qu'il se passe la même chose pour le Parti Socialiste, qui a fait effectivement un score très bas.
Je ne crois pas.
Moi, je ne sais pas.
Très concrètement, circo par circo, si on divise, s'ils divisent leurs forces par 3 ou par 4, eh bien, il a créé une dynamique à gauche qui manquait. Non, justement, il n'y a pas de dynamique entre 2017 et 2022.
Mais au départ, il a créé... Les médias n'ont parlé que pendant... D'ailleurs, c'est pour ça que d'ailleurs, Le Pen n'a pas fait campagne. On n'a parlé que de Mélenchon pendant cette législative.
Pour quel résultat?
150 députés à l'Assemblée nationale.
C'est quand même pas mal.
Alors, il en voulait 289.
Mais
oui,
et alors, mais 150, en 2017, il y en avait 150. Combien, Virginie? Il y avait 50 députés de gauche à l'Assemblée nationale.
Exactement, Jean-Luc a raison.
Il y en a 150.
Écoutez, vous m'empêcherez pas de regarder les chiffres. Il y a eu plus d'électeurs qui ont voté pour la gauche en 2017 qu'en 2022. Il n'y a pas d'élan Mélenchon. Il y a
Virginie,
je pense que le sujet, c'est que...
Il y a certes des députés qui ont été élus qui ne l'auraient peut-être pas été, mais je ne suis pas sûre qu'il l'ait été dans la proportion comme
Samuel. Le sujet, Virginie, c'est que effectivement, il ne fait pas autant que ce qu'il espérait, ce qu'il annonçait.
Loin de là.
Et qu'il y a, heureusement pour moi, moins de gens qui ont voté, de Français qui ont voté à gauche parce qu'ils en ont assez de plein de projets et de ratés de la gauche depuis des années. Mais la réalité, c'est que s'il n'avait pas fait ça, la gauche aurait un résultat catastrophique à l'Assemblée nationale. Et là, finalement, il arrive à...
Moi, j'en sais rien.
Il arrive à s'en sortir et on va voir ce qu'on va faire. Le PS aussi, parce que le PS était quasiment en mort cérébrale. Et finalement,
là, il va avoir 35 députés.
Le PS va avoir un groupe à l'Assemblée nationale. Et le plus important dans tout ça, c'est que Emmanuel Macron, on en parlait au début, est tombé de sa chaise. Il pensait vraiment pouvoir avoir une majorité sans problème à l'Assemblée nationale. Il ne va pas l'avoir. Et là, ça va être très difficile pour lui.
On va en reparler dans un instant avec vous sur Sud Radio. Petite précision, les chiffres de la sécurité routière sont comparés, bien évidemment, avec l'année où il y avait autant de voitures en circulation.
Et on ne parle pas
du confinement, bien évidemment. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec Nicolas Jeannetet, Virginie Le Guay, Jean-Luc Benhamias et Samuel Lafont. Alors, on parle d'un gouvernement d'union nationale. C'est en tout cas ce qu'a rapporté hier Fabien Roussel, le président de la République. Vous le savez, a reçu hier les responsables politiques des groupes d'opposition à l'Assemblée nationale. Et il aurait évoqué un gouvernement d'union nationale. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que ça a du sens? Ça existe chez nos voisins, un certain nombre de nos voisins, Virginie Le Guay.
Ça a du sens s'il a des partenaires. Pour l'instant, il n'en a pas. C'est-à-dire qu'à la fois LR, tous d'ailleurs, il n'y en a pas un seul qui a dit « nous, on est prêts à gouverner avec vous ». Je rappelle une chose, c'est que Emmanuel Macron fait son deuxième quinquennat, qu'il ne se représente pas en 2027 et que la succession est déjà ouverte et que personne ne veut mettre un doigt dans ce quinquennat qui semble assez mal parti en se disant « on ne va pas compromettre nos chances d'arriver vierge de tout macronisme en 2027 ». Donc là, il y a un jeu, il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale. Autre petite pique à l'intention de M. Bayrou, qui a fait quasiment son autoportrait en disant, d'ailleurs, ce qui est fort peu civil à l'encontre de Mme Borne. Je rappelle, au cas où certains l'auraient oublié, que François Bayrou fait partie de la majorité. Ouais. Donc, il dégage Mme Borne et il dit il faut un Premier ministre politique. Mais François Bayrou ne représenterait pas non plus, lui, l'Union nationale, puisqu'il est déjà dans la majorité. Donc là aussi, il y a un contresens évident.
Samuel,
il n'y a pas...
Alors, allez-y, Jean-Luc.
Pardon. Il n'y a pas de gouvernement d'union nationale dans les différents pays européens. Il y a des gouvernements d'alliance. La surprise, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale en Italie.
D'accord.
Pardon, excuse-moi Valérie.
Je continue. J'accepte.
La question posée en France, c'est que deux unions se sont déjà faites pendant les législatives. Il y a l'union autour de l'ensemble, à quatre formations politiques. Il y a l'union autour de la NUPES à quatre formations politiques. Dans les autres pays européens, si vous regardez bien les résultats, je pense aux Pays-Bas, à la Belgique, à l'Allemagne, je pourrais vous faire tous les pays européens quasiment, eh bien, chaque formation politique se présente. Et là, il y a politique de compromis, d'association, de vision politique commune qui font des gouvernements, qui ne sont pas des gouvernements d'union nationale, mais qui sont des gouvernements d'union sur un projet et sur un programme. Je prends l'exemple de l'Allemagne. Quand la formation arrivée en tête, c'est elle qui fait les propositions. Il y a un débat pendant 3 mois et le gouvernement se crée au bout de 3 mois. C'est une pratique que nous ne connaissons pas en France. Et peut-être que ce qui nous arrive nous amènera un jour à pratiquer ce genre de choses. Si on passe à la proportionnelle, mais la proportionnelle, en fait, nous l'avons, puisque le Parlement aujourd'hui, si on prend formation par formation, représente quasiment l'ensemble des formations politiques existantes en France. Il manque que lutte ouvrière. Donc si vous voulez, à ce niveau-là, on a un changement institutionnel profond qui vient de cette élection. Et je ne dis pas que ce sera simple, mais je dis que la proposition d'Emmanuel Macron d'Union nationale maintenant ne peut pas être réalisée.
Ça ne peut pas fonctionner. Impossible.
D'ailleurs, les trois premiers groupes de l'Assemblée nationale sont les trois formations politiques qui sont arrivées en tête à la présidentielle.
Par hasard, on a une représentation qui correspond presque à la proportionnelle. Mais si on refait une élection,
non, c'est pas tout à fait la proportionnelle.
Honnêtement, le système uninominal majoritaire à deux tours a des résultats qui sont très différents d'une représentation fidèle de l'opinion. Ça a des avantages et des défauts, mais la réalité, c'est que on peut se poser la question de ce mode sur ce mode de scrutin, puisque on voit qu'il y a beaucoup de Français qui décident de ne pas aller voter, et notamment, sans doute, parce qu'ils ne se sentent pas représentés. Ça a d'autres, il y a d'autres soucis aussi quand on n'est pas représenté directement à l'Assemblée nationale, c'est que les nouveaux débats ne peuvent pas émerger. C'est-à-dire, s'il y a un sujet qui monte dans l'opinion publique et qui va être défendu par un parti en particulier, eh bien, il ne peut pas être représenté directement. Non. Et donc, une partie de l'opinion ne se sent pas représentée. Ceci étant dit, Emmanuel Macron, quand il parle d'Union nationale, en fait, ce qu'il essaie de faire aussi, c'est de dire « Regardez, j'ai ouvert les bras à tout le monde. » Tout le monde pourrait gouverner, on pourrait gouverner ensemble. Et en fait, ils ne veulent pas gouverner. Je suis le seul recours. Je suis le seul à pouvoir gouverner. Et si jamais, par hasard, je faisais une dissolution, ce serait bien qu'en fait, on vote pour mes députés qui seraient les seuls capables de gouverner, ou en volonté de gouverner, de participer au gouvernement de la France. Et c'est ce qu'il fait. Donc, c'est évidemment, il tente quelque chose, mais c'est à la fois politique pour gérer l'Assemblée.
Et en même temps, c'est un calcul.
Et en même temps, c'est pour son image.
Enfin, s'il y a une dissolution, le résultat pourrait être encore pire pour lui que ce qui s'est déjà passé.
S'il y a une dissolution, il n'est pas du tout sûr que ça fonctionne.
Non, mais les Français sont endormis le samedi sous un régime présidentiel. Ils sont finalement réveillés le lundi sous un régime un peu parlementaire. Alors, faisons des coalitions. Les coalitions, moi, je ne suis pas favorable. Mais on voudrait faire des coalitions comme à l'Allemagne. Mais on n'est pas à l'Allemagne. L'Allemagne, c'est une élection à un tour. Comme le dit Jean-Luc, ça se prépare longtemps à l'avance. C'est le parti arrivé en tête qui propose ensuite à d'autres partis de faire une coalition. Et ça met 3-6 mois. Et c'est un document de 40 pages qui est rédigé.
Qui est appliqué à la lettre.
Qui est appliqué à la lettre, d'ailleurs, avec des efforts extraordinaires. En Allemagne, par exemple, les Verts ont demandé dans l'accord la légalisation du cannabis, ce qui est en train de se faire en Allemagne. En revanche, le FDP, les libéraux, ont demandé la fin de la limitation de vitesse sur les autoroutes. Donc il y a des avancées comme ça qui sont faites. On en est loin. Aujourd'hui, ici, ça va se passer texte par texte. Ça va être de la dentelle.
Je crois qu'il n'y avait pas de limitation de vitesse sur les autoroutes en Allemagne.
Et là, à nouveau, ça va être libéré.
Ça dépendait des autoroutes.
Des autoroutes. Voilà. Et puis des landers.
Mais comment, effectivement, on peut proposer un gouvernement d'union nationale?
Mais c'est pas possible. Donc là, tout le monde le refuse. Ça sera texte par texte. Ça a l'air va hier obliger au ministre de bien travailler, de faire un peu plus d'efforts, de mieux soigner le Parlement, de mieux soigner le Sénat, de mieux soigner les parlementaires. Et on va essayer avec la dentelle.
C'est l'exact inverse de ce qui s'est passé pendant 5 ans.
Alors, il y a un problème.
Est-ce qu'Emmanuel Macron en est capable?
Mais c'est surtout le Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre aussi en est capable? Le choix d'Elisabeth Borne n'est pas forcément le bon choix. Parce qu'il ferait, comme poste de Premier ministre, quelqu'un de très politique.
Mais elle est très bonne négociatrice.
Oui, enfin, c'est une techno.
Là, il faut négocier, là.
Il va falloir négocier.
Très bonne négociatrice.
Oui, mais enfin, c'est pas une politique.
Si elle est très bonne négociatrice.
Ça va surtout être le travail d'Olivier Véran, qui a commencé d'ailleurs à essayer de prendre contact député par député pour savoir qui pourrait et puis de faire des concessions. On ne va pas bafouer le Parlement.
Emmanuel Macron a perdu Richard Ferrand, on l'a déjà dit, mais il a perdu certains de ses cadres importants à l'Assemblée. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, les Français se sont bien rendus compte. Il y a un quinquennat où Macron avait tous les pouvoirs. Il faisait ce qu'il voulait, il avait suffisamment de députés pour voter, et donc le gouvernement n'avait que faire de l'Assemblée. Ouais, vraiment que faire.
Il nous a bafoué pendant 5 ans.
Il y avait un petit peu le Sénat qui pouvait s'opposer, mais la réalité c'est que maintenant, nécessairement, Emmanuel Macron et son gouvernement vont devoir vraiment regarder ce qui se passe à l'Assemblée nationale et se rendre compte que l'Assemblée nationale sont des députés qui ont le droit la possibilité de rejeter ces textes.
Pendant 5 ans, la droite a voté quand même 30% des textes et aucun amendement de la droite proposé n'a été voté. On a été bafoué totalement. Lors du jour, les textes, etc., aussi bien à l'Assemblée nationale, au Sénat. Alors désolé, un peu de retenue maintenant.
Ouais, beaucoup de. Alors on va y revenir. Beaucoup d'auditeurs s'interrogent sur une possible dissolution. Ce sera pas à son avantage. Hein. On va y revenir dans un instant.
Pourquoi les électeurs se déjugeraient si vite?
Bah oui.
Dans 6 mois, si.
À tout de suite.
Si juste.
Sud Radio 10h midi. Valérie Expert. Débat.
Les débats, nous revenons sur la politique avec le gouvernement d'Union nationale et puis cette question soulevée par les déclarations de Gérard Larcher ce matin. Il dit la présidence de la commission des finances doit revenir au Rassemblement national. Larcher défend le respect pour les élus de Le Pen. Est-ce que ça ressemble pas à un rapprochement des droites ?
J'espère que non. Non, là, il voulait probablement dire qu'il fallait respecter les institutions et que le groupe, la présence du groupe de la Commission des Finances revienne. Enfin,
c'est le président du Sénat. C'est pas neutre comme parole de dire une chose comme celle-là. Vous en pensez quoi, Samuel Lafont ? Est-ce que c'est pas un petit pas qui est fait vers une sorte d'union des droites ?
Ce qui était pensé impossible hier peut devenir possible aujourd'hui.
Vous êtes d'accord ?
Et ce qui se passe réellement, c'est que si vous êtes
impossible
fort...
Pour moi.
Si vous êtes fort, vous attirez les gens vers vous. On a vu aussi qu'il y a peut-être une transformation, on verra dans les semaines et mois à venir, de la perception qu'il y a de la partie plus à droite qu'En Marche sur l'échiquier politique. Pendant des années, même chez les Républicains, certains étaient conspués, traités de tous les noms, évidemment chez Reconquête ou Rassemblement National. Et là, on voit que les mots changent. On voit aussi que les votes et reports de voix des électeurs aux législatives laissent entendre qu'il n'y aurait pas véritablement de front républicain. Vous mettez tous les guillemets clairement. Que vous voulez.
C'est fini,
et donc, il y a un changement véritablement de paradigme qui a été, malgré le fait qu'on ait gardé le même mode de scrutin. Et donc, on va voir, il peut y avoir, à mon avis, des accords. La réalité, c'est que le plus important, à la fin, in fine, c'est que les Français aient ce qu'ils souhaitent. C'est-à-dire, quand on voit les sondages, moins d'immigration, moins d'impôts, plus de sécurité et qu'on traite les sujets qui les intéressent, la santé, le pouvoir d'achat et l'école, au milieu de tous les autres sujets. Mais voilà, à la fin, c'est ça qui est le plus important. On peut avoir union des droites, on peut avoir d'autres systèmes. Le plus important, c'est qu'à la fin, ce soit les Français qui soient gagnants.
Virginie.
Moi, je pense que ceux qui voulaient rejoindre Éric Zemmour venant de LR l'ont fait. Les autres sont restés fidèlement au sein de LR. Mais ce que j'imagine plutôt, c'est que Gérard Larcher veut essayer de couper l'herbe sous le pied à tous ceux qui imaginent des petites manipulations au sein de la... Est-ce que ça va se voter au sein de la Commission des Finances, la présidence ? Et il y en a certains qui commencent à dire « Oui, on n'est pas obligé de prendre le groupe le plus important. » Ce qui est vrai, c'est
ce
pas dans
vrai,
les textes.
On peut
choisir un autre groupe d'opposition et on n'est pas obligé de regarder vers le groupe le plus important qui, de fait, est le groupe Rassemblement National. Et il y en a d'autres aussi qui disent, la coutume, c'est que ceux qui seront membres de cette commission et qui sont représentants de LREM ne votent pas. Ça, c'est aussi la coutume. Mais tout ça n'est que des coutumes et des usages. On peut les modifier pour éviter à tout prix, mais moi, je pense qu'il n'y aura pas de majorité au sein de la commission pour le Rassemblement National, mais que ça ne viendra pas de la droite. Ça viendra des membres de la commission.
Ce que voulait surtout dire Larcher, c'est qu'il veut éviter
les manips
et que la présidence de la commission des finances aille à quelqu'un de NUPES.
Bien sûr.
Voilà. Et donc, alors peut-être qu'il
si
a fait le choix.
Si possible, à quelqu'un de la droite.
Voilà.
À sa petite, grosse information, Aurore Berger a été élue à la tête des députés LREM et Olivier Marleix pour Les Républicains. Donc, Aurore Berger qui avait été écartée au profit de Christophe Castaner à l'époque, donc obtient ce poste. Jean-Luc
Benhamias. Elle qui avait pleuré, je crois, c'était dans le Canard enchaîné, elle avait pleuré dans les jardins de Matignon parce qu'elle n'avait pas été nommée ministre. Elle disait « c'est injuste ».
Mais c'était un peu injuste, je trouve.
Connaissez le parcours d'Aurore Berger, elle était jupéiste.
Elle a fait le job. Elle a fait le job. Nous, on la connaît depuis longtemps, elle vient ici souvent. Elle est toujours disponible, elle a un raisonnement qui est clair. Moi, je trouve qu'on lui colle un peu ce truc-là un peu trop facilement sur le dos. Mais bon,
Jean-Luc,
qui ne l'est pas en politique.
Contrairement à Amélie de Montchalin, elle s'est fait réélire.
Ouais, toujours pas. Voilà. Jean-Luc, vous en pensez quoi
Jean-Luc, il veut prendre la présidence de la commission des finances,
voilà.
Non
Non, pas du tout. Je pense que c'est le petit bout de la lorgnette dans la crise institutionnelle que nous vivons. Ouais. Je l'ai déjà dit sur cette antenne, je le répète, je pense que la Ve République est en situation de mort lente que nos institutions ne répondent plus à la diversité qui existe dans notre pays. Et tellement diversité d'ailleurs qu'il y a 54% qui s'abstiennent, ce qui est un des plus gros problèmes que nous vivons. Et à ce niveau-là, bon, moi, l'histoire de la commission des finances me paraît totalement anecdotique.
Oui, c'est de la tambouille.
Plus qu'anecdotique, parce que ça n'intéresse pas. Excusez-moi, mais si on faisait un sondage général sur que pensez-vous de qui doit présider la commission des finances,
Je
suis bien sûr que le résultat au niveau des Français et des Françaises soit très important. Le taux d'abstention risquerait d'arriver à 85%, si vous voulez. Donc voilà, après cette crise institutionnelle, elle est là. Il faut faire avec. La France est un grand pays. La République française, c'est une république qui doit continuer à exister, mais plus sous un système de la Ve, mais sans doute sur un système de la VIe.
Ne croyez-vous pas que les institutions de la Ve République sont plus solides que ce que vous dites et que ça va finalement fonctionner d'une façon ou d'une autre, mais ça va fonctionner?
Oui, c'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit depuis 2002. Et depuis 2002, ça va de pire en pire.
Oui, absolument. Je voudrais qu'on parle du Qatar aussi. On l'a un peu évoqué tout à l'heure dans le zapping, mais vous savez, les relations sexuelles hors mariage seront interdites lors de la Coupe du Monde au Qatar. Des peines de prison attendent les contrevenants, jusqu'à 7 ans de prison, alors que la consommation d'alcool habituellement très importante pendant la compétition sera contrôlée. Ce sera la même chose pour le sexe. Il faudra prouver que vous êtes marié, tout cela entre le 21 novembre et le 18 décembre. Jean-Luc, je vous entends déjà.
Moi aussi, je râle là-dessus. Ouais.
C'est une provocation.
C'est une mascarade.
Parce que, bon, moi, j'ai vu la pétition faite par Amnesty International, qui est une bonne pétition, qui n'est pas contre le fait qu'il y ait des Coupes du Monde, mais qui est pour demander aux footballeurs et aux fédérations sportives s'occupant de football d'arriver au Qatar et d'exprimer leur position. C'est-à-dire, en dehors de cette provocation dont on vient de parler, il y a eu des milliers de morts pendant les travaux.
65 000 morts depuis 2010.
Il y a des stades qui sont construits.
6 500 morts depuis 2010. Pardon, oui. 6 500 morts depuis 2010 dans les travaux et les chantiers du Qatar. C'est ignoble.
Ouais. Avec des gens qui sont qui n'ont pas le droit.
On le savait, en fait.
Quand ils travaillent là-bas, ils ne sont pas libres.
On a fait ce choix.
Oui, on le savait, absolument.
Mais on sait pourquoi on a fait le choix.
C'est un peu simple, après avoir fait le choix du Qatar, de se dire « Ah ben mince, il y a des ouvriers qui meurent sur les chantiers, ah ben mince, le Qatar va essayer de nous imposer ses mœurs. » La réalité, c'est que pourquoi est-ce qu'on a choisi le Qatar?
C'est pas, devinez.
La question
est de savoir, c'est-à-dire que plus on avance, plus la réalité est là.
C'est exactement ça.
Est-ce qu'il faut boycotter?
Non, justement, c'est pour ça que je parlais de la pétition d'Amnesty International qui ne demande pas le boycott, à l'instar de ce qu'avait fait Amnesty International en 78, pendant la dictature argentine. Elle avait fait la même chose. Un certain nombre de footballeurs français, d'ailleurs, dont Dominique Rochaud, avait signé cette pétition. On ne peut pas demander plus aux footballeurs. Je dis simplement qu'il y a de quoi, quand on discute et qu'on va au Qatar, il y a de quoi mettre des règles de protestation, et les États ont de quoi. D'ailleurs, un certain nombre d'États européens, notamment le Danemark, ont fait des protestations.
Ouais, vous croyez vraiment que les protestations, ça a un impact?
Je crois vraiment que ça n'est pas essentiel. Évidemment, ça n'enlèvera pas le fait qu'on vienne parler d'horreur, ça n'enlèvera pas tout cela, mais au minimum, on montrera au pouvoir qui dirige le Qatar que l'ensemble du monde n'est pas d'accord forcément.
C'est pour ça qu'il fallait en parler aussi.
Est-ce que le boycott ne passerait pas justement par inciter les gens à ne pas aller au Qatar et ne regarder les matchs qu'à la télévision pour éviter que le Qatar...
Que la télévision ne diffuse pas. Mais bon,
Nicolas, ça ne va pas se bousculer. C'est très cher, le Qatar, pour bien avoir commandé. Ça ne va quand même pas se bousculer. Ce n'est pas le match au Stade de France.
Il y a une grande hypocrisie dans tout ça. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Avoir choisi le Qatar est déjà une folie et un contresens absolu. Et là, tout d'un coup, on est confronté à la réalité de ce qui se passe dans ce pays. Et on a l'air de s'en étonner. Mais c'est plutôt le choix du Qatar qui devrait être questionné.
Et le choix de Sochi en Russie.
Exactement.
Et là, on parlait de l'interdiction de femmes mariées. Mais on peut parler aussi de l'homosexualité. D'ailleurs, il y a une très belle photo qui a été faite où on voit Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s'embrasser sur la bouche pour justement provoquer un peu et attirer l'attention sur l'homosexualité qui est interdite dans ce pays-là.
Et il y a, je vois à l'instant, là, le Qatar commence à installer des panneaux d'affichage anti-LGBT dans les villes.
C'est ça, exactement.
Et on voit une famille, des silhouettes, un homme, une femme, deux enfants avec un parapluie et le drapeau LGBT qui coule sur le parapluie. C'est du genre, protégeons-nous de cela, et ça dégouline comme du sang. Oui, il y a un moment, je vois Françoise de Goix qui dit sur Twitter, c'est quoi ce Bins, on accepte ces délires sans broncher, la FIFA est-elle OK avec ça? Aucun pays ne va protester. Il y a un moment, oui, on le savait.
Ça va monter, le boycott va monter.
Oui. Les joueurs français, dont notre meilleur joueur, M. Mbappé, j'oublie pas Benzema, Mbappé, je pense qu'il aura les possibilités, et je pense qu'il sait le faire de manière assez brillante généralement, d'expression publique.
Et alors effectivement, on m'envoie le logo de la FIFA qui est aux couleurs arc-en-ciel. FIFA.com, c'est le logo et sur fond d'arc-en-ciel, donc du symbole LGBT.
Ouais,
donc,
ça vous a pas échappé que la FIFA est en pleine crise depuis très longtemps.
Mais ça va commencer à poser un problème quand même. Si la FIFA affiche ouvertement un soutien au LGBT et que Qatar annonce des peines de prison pour tout ce qui est homosexualité ou couple qui a des rapports sexuels sans
être marié.
Rapport de force. Et clairement, on verra s'il y a une mobilisation de l'opinion publique. Ça va être intéressant parce que, notamment grâce aux réseaux sociaux, on voit que partout dans le monde, les gens peuvent. Partout où il y a des connexions, et c'est de plus en plus le cas partout dans le monde, on peut participer à des mobilisations. On va voir ce qui va se passer. Mais clairement, le problème principal, c'est d'abord d'avoir fait le choix du Qatar.
Exactement.
Il faut bien se rendre compte qu'il y a des pays dans le monde qui n'ont pas les mêmes mœurs que nous. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des rapports de force pour dire qu'on pense qu'il faudrait faire évoluer les mœurs dans un sens ou dans l'autre.
Pour les compétitions internationales, seuls les pays riches aujourd'hui peuvent organiser ces compétitions. Et le Qatar en fait partie, même si c'est un très petit pays, mais c'est un pays riche.
Oui, c'est un pays riche. Et rapport de force, est-ce que ça peut fonctionner ou pas? Je pense qu'il y a trop d'argent, trop d'enjeux.
Trop d'argent en jeu.
Trop d'argent et trop d'enjeux, mais vrai que...
Comme disait Nicolas, il y aura probablement peu de gens sur place. On verra, mais... Probablement beaucoup de gens resteront chez eux.
Je souhaiterais que peu de gens se déplacent là-bas.
Oui, on a posé. Oui, boycotter, mais on ne boycottera pas. Ce sera pas boycotté.
La passion du foot après va l'emporter. Moi qui adore le foot, je vais être scotché devant ma télévision.
Ouais. Et tu ne seras pas tout seul. Hein.
Jackie, un auditeur, nous dit le Qatar, c'est comme tous les pays du Moyen-Orient qui sont très clairs. Ne faites pas chez nous ce que l'on s'autorise à faire chez vous. L'argent du foot est toujours vainqueur sur la morale. Donnons l'exemple et respectons ce que le Qatar demande.
On a oublié Jean-Luc, l'aspect climatique.
J'allais venir, on m'a coupé.
Je m'étonnais que tu n'en parles pas avec stades climatisés.
Cette fausse neige.
Oh là là.
Ouais. Non, mais c'est surtout des stades qui serviront à rien juste après. Ouais. Qui plus est. C'est à ce niveau-là, ces grandes organisations, même si j'adore ça, je n'arrête pas de le dire sur cette antenne, je râle le sport, j'essaie d'en faire un peu, mais je ne suis pas sportif de haut niveau, moi. Mais clairement, il y a un moment donné, la disproportion entre ces grandes opérations et la pauvreté mondiale et le changement climatique devient total.
Mmh. Oui, vous vouliez dire ajouter quelque chose?
Oui, simplement, c'est qu'on dit habituellement à Rome, faisons comme les Romains. La réalité, c'est qu'on savait donc que le Qatar allait vouloir imposer sa manière de vivre sur place. Alors après, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit qu'il y a des mœurs occidentales et que l'organisation de la FIFA s'est tenue plutôt par l'Occident en général, et donc il faudrait que lorsqu'un événement, il y ait un particularisme local? Il faut voir. Ce qui est clair, c'est que c'est pas simple, et que le souci principal, c'est de ne pas avoir posé le sujet dès le début du choix du Qatar. C'était pas seulement l'endroit, parce qu'on a beaucoup parlé de chaleur à l'époque, mais en fait, il y a plein de conséquences derrière, notamment on a parlé
de t'indigner des morts sur les chantiers.
La FIFA n'est pas tenue par l'Occident, la FIFA est tenue par les gros milliardaires.
Oui, absolument. On va marquer une pause, on se retrouve dans
un petit instant. Pardon, excuse-moi Virginie, t'as raison.
À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. débat.
Et nous commentons ce que peut être demain l'Assemblée nationale, le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, comment contourner, comment gouverner cette... Oui, bonne chance, vous dites Jean-Luc. Il y a, je vois Olivier Marleix, donc on le disait, qui a pris la tête des LR et qui a publié il y a... en 2019, les liquidateurs, ce que le macronisme inflige à la France et comment s'en sortir. C'est-à-dire qu'avec des gens comme ça, ça va être très compliqué d'arriver... Enfin, c'est une Assemblée nationale qui va être ingérable. Il y a le cas Abad qu'on a évoqué hors antenne avec la France insoumise qui a promis de siffler
à chacune des interventions de Damien Abad pour l'empêcher de parler.
Vous allez me dire
Il va falloir un président ou une présidente de l'Assemblée très forte pour manager. Ça va être du management de débat. Hein.
Mais le choix d'Olivier Marleix dit beaucoup de la ligne que veut tenir le groupe. Ils ont choisi Olivier Marleix, pas par hasard, ils ont choisi Olivier Marleix pour lancer un message très clair à Emmanuel Macron.
De professionnalisme.
Qui est, on est là où on est, mais on ne sera pas avec vous. Et on est dans une opposition tout à fait franche. Si par hasard on doit soutenir des projets, il faudra que ce soit des projets qu'on valide totalement.
Oui.
Ouais, c'est clairement un signe. Hein. Clairement un signe de la part des Républicains pour éviter aussi qu'Emmanuel Macron vienne draguer, ou en tout cas dire aux personnes qui sont en train de se faire draguer qu'il vaut mieux qu'elles restent chez les Républicains, qu'on ne laissera pas être entre deux chaises, être parfois avec les Républicains, parfois avec Emmanuel Macron. Ce qui est sûr, c'est que là, on voit, tout le monde, le refus d'union de gouvernement de l'Union nationale. Très clair. Le fait que les différents partis s'opposent directement à Emmanuel Macron, le fait que chacun commente la défaite d'Emmanuel Macron, on dit tous à Emmanuel Macron, écoute, ça fait des années que tu expliques que tu es Jupiter, que tu vas tout diriger facilement, que tu ne dois pas tenir compte de l'Assemblée. En fait, il y a en France des gens qui ne pensent pas comme toi. En fait, il y a en France des gens qui veulent être représentés. Par un coup du hasard, on se retrouve avec une Assemblée qui est en partie représentative. Et donc, il va falloir que tu tiennes compte de l'ensemble de l'opinion française, en tout cas de sa représentation à l'Assemblée nationale.
Pourquoi par un coup de hasard ? C'est pas forcément un coup de hasard. Évidemment, les électeurs ne se sont pas concertés.
Parce que le mode de scrutin,
malgré tout, il y a un
ça.
Mouvement de fond. Bah oui, mais le mouvement de fond est là.
Ah oui, c'est bien que le mouvement de la population, mais la réalité, c'est que le mouvement de la population, il y a depuis des années, mais que le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours qu'on a en France, eh bien, couper la représentation.
Bah, la preuve que non.
De manière réaliste, statistique, la plupart du temps, il coupe la représentation. Là, pour l'instant, il a pas coupé. On verra ce qui se passe.
Le même mode de scrutin a produit des effets bien différents.
Oui.
Mais la plupart du temps, il produit un autre résultat que celui-ci.
Jean-Luc, je vous ai entendu dire que ça allait être très dur. Qu'est-ce que vous... qui avait quelques heures de vol.
Ouais, merci.
Oh, d'expérience, voilà, d'expérience.
Une grande expérience. C'est bon, ça va, ça roule.
Qui avait une grande expérience. Comment vous voyez les choses?
Je ne sais pas comment. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est une situation totalement nouvelle par rapport à la Ve République. On n'a jamais vu ça, même en 88, avec François Mitterrand et Michel Rocard. Il y avait deux voix qu'il fallait aller chercher à l'époque, pas plus. Ah oui. Là, il y en a 40. C'est très compliqué. Même texte par texte, vous vous rendez compte de la complexité. Enfin, moi, je m'en rends compte et je pense que vous aussi. Et les auditeurs, pareil. Auditrices, de la même manière. Donc, à ce niveau-là, on va voir la semaine, mais rien que, je l'ai dit, bonne chance à celle ou à celui qui sera président de l'Assemblée nationale. Il va falloir faire, ça va être comme, allez, je vais faire une comparaison avec les professeurs et les professeuses de collège.
Professeuses.
Oui, je dis professeuses.
D'accord.
Ouais, okay. Pourquoi pas. De collège, où on commence à faire de l'autorité avant de démarrer. Voilà, et faire parfois de l'autoritarisme. Ça va être extrêmement complexe, même si je crois que les députés, quels qu'ils soient, seront des gens sérieux. Mais entre être sérieux et trouver des accords politiques sur différents textes, mais ça va prendre des
journées. Jean-Luc, on va rentrer dans une période passionnante où, pour une fois et pour la première fois, on va être obligé à l'Assemblée nationale de dialoguer, sérieusement, de ne pas voter contre par principe, du copier-coller d'amendements pour faire de l'obstruction. Chaque groupe va devoir, de façon intelligente, travailler. L'exécutif va être obligé de travailler aussi intelligemment. Et si effectivement, ça va être du travail de dentelle texte par texte pour aller chercher la majorité. Si on n'y arrive pas, eh bien quoi? Eh bien, dans
chacun
mois,
va être mis devant ses responsabilités. Mais là, tout d'un coup, chacun est au pied du mur.
Et c'est, très bien, et c'est très bien.
Mais certains groupes ont annoncé qu'ils étaient là pour foutre le bordel. Pardon,
il y a un groupe, la France Insoumise. Et même pas les socialistes, pas les écologistes. La France Insoumise uniquement.
Mais ça suffit à foutre le bordel.
Oui, bah, on verra.
Et moi, je rajoute une dernière chose qui va freiner la majorité, c'est que l'utilisation du 49.3, dont Michel Rocard s'est servi à de nombreuses reprises pendant cette période 88-91, est limitée aujourd'hui à une fois pour la loi de finances et une fois pour autre chose par session. Donc là, il ne pourra que très peu s'en servir.
Et c'est heureux qu'il y ait eu ce changement.
Très bien,
on ne gouverne
bien
pas un pays au-dessus de l'Assemblée nationale.
Samuel Lafont.
Il y a une vraie question par rapport aux attentes des Français. Vous savez, on a fait remonter dans cette émission des sujets importants comme typiquement le problème de santé, donc la détérioration de l'hôpital, la désertification médicale en France. En fait, il y a plein d'endroits où on n'a plus accès à des médecins et des spécialistes. On a aussi le sujet de l'école qui monte beaucoup, avec une détérioration du statut des enseignants. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, là, on a des urgences à régler.
Il n'y a pas que ça, il y a les défis énergétiques,
il y a plein de sujets. Il faut que le programme est complet. Si vous allez regarder le programme d'Éric Zemmour sur
Edouard Ranquette, ce qui est ressorti, c'était principalement.
La réalité, c'est qu'en fait, pendant la campagne, on a commencé à campagne sur l'immigration et sur l'insécurité, avec un discours civilisationnel, et que quand on parle d'autres sujets, en fait, quand vous êtes très marqué sur un sujet, même si on parle d'autres sujets, parce qu'on a un discours qui est très prononcé sur l'école, un discours qui est sur l'écologie, sur tous les thèmes.
Disons qu'on a particulièrement entendu parler de sujets.
On a beaucoup parlé de l'immigration, qui est aussi un thème important. Mais pourquoi je vous parle d'école et de santé aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, s'il y a des blocages systématiques à l'Assemblée, il y a des sujets qu'on doit traiter très rapidement, et qui ne seront pas traités. Donc effectivement, on va voir ce qui va se passer, parce que quand d'un côté, on aura l'opinion publique qui dira « on a un problème sur le pouvoir d'achat, on a un problème au niveau de la santé, on a un problème au niveau de l'école, et que ça n'avancera pas à l'Assemblée nationale », eh bien, ça fera véritablement des frictions.
Moi, je pense que ça va bien se passer, et qu'au bout du bout, contrairement à tout ce que tout le monde pense, il va y avoir des coalitions ou des accords différents selon les projets de loi, et que vaille, ça va tenir, parce que chacun des partis, à part la France Insoumise, y a intérêt.
Mais la France Insoumise, il y a tout aussi intérêt. Il faut arrêter avec ça. Ils sont 74, ce ne sont pas toutes les mêmes personnes. Les gens sont issus de formations différentes, d'un travail différent. Il faut arrêter avec cette espèce de... C'est comme si on mettait dans le même paquet l'ensemble des députés RN. Il y a des extrémistes de droite, il y a même des fascistes dans les députés RN. Ils ne sont pas tous fascistes. Enfin, il faut arrêter avec cette espèce de...
Non, mais il y aura forcément des brebis galeuses dans tous les groupes.
Vous les avez entendus. Vous avez entendu.
Mais je les ai justement entendus. J'en ai même soutenu ici ou là.
Non, mais ces derniers jours, vous entendez bien...
Non, mais ils ont quand même dit qu'ils voulaient faire la pagaille à l'Assemblée nationale.
Ils l'ont dit clairement. C'est pas moi qui l'invente.
Si on parle de l'école et de la santé, si les propositions qui arrivent, justement, deux sujets essentiels, qui ne sont pas des sujets les plus compliqués, si le gouvernement, on verra ce qu'il sera, arrivent à faire des propositions honorables qui reviennent en arrière par rapport à toutes leurs définitions qu'ils avaient dans leur premier mandat. Je pense que sur l'école et la santé, il y a des choses possibles.
Il y a le sujet qui va de toute façon accrocher, c'est la réforme des retraites. Là, je pense qu'on aura du mal
à
se mettre autour de la table. Et là, on va retarder encore la réforme des retraites.
Elle est morte,
à 6 mois, 8 mois, 10 mois. Oui. Et c'est à ce moment-là que ça explosera et qu'il y aura donc une dissolution.
L'avantage pour les Français, au moins, c'est qu'avec cette Assemblée, on aura des propositions différentes, alors qu'on a vécu 5 ans pendant
lesquelles
5 années pendant lesquelles Emmanuel Macron nous a expliqué qu'en fait, il y avait une vérité, que c'était la vérité d'Emmanuel Macron, et que tout le reste des propositions, qu'elles viennent de droite comme de gauche, ou plus à gauche comme Macron, étaient mauvaises, et donc en fait, qu'il n'avait qu'une seule solution. Et le problème, c'est qu'en fait, non. La réalité, c'est qu'en débattant, on va certainement aller vers du mieux.
Et puis ça va faire à visage ouvert.
Et là, ça va se faire directement à l'Assemblée, alors que pendant 5 ans, mine de rien, ça s'est fait sur les plateaux, à Sud Radio, sur d'autres chaînes, parce que justement, à l'Assemblée, il n'y avait plus de débat.
Alors, Olivier Véran veut construire une majorité sans le RN et LFI, c'est ce qui vient de tomber à l'AFP.
Bonne chance.
Ce qui est sur la table, c'est
d'identifier une majorité pour pouvoir avancer et transformer notre pays. Toutes les options sont sur la table.
L'option de droite, voilà. Finalement, l'option LR.
Une bonne nouvelle, Valérie, pour terminer. Il pleut à Marseille.
Ouais. C'est vrai.
Ouais. Allez, merci à tous les quatre. Dans un instant, André Bercoff. Très bonne journée sur Sud Radio.